Bonjour Jérôme Dédéian.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue associé de toutsonmesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Il y a une interview de Patrick Artus dans le Figaro ce matin qui, sur la question du pouvoir d'achat, dit que l'un des éléments clés, c'est le logement justement. Et qu'il va falloir faire complètement différemment, arrêter de soutenir la demande au détriment de l'offre, de vouloir vendre des logements tous accessibles aux handicapés, d'aider à l'achat avec du prêt à taux zéro. Ça conduit à des prix exorbitants, deux fois supérieurs à ce qui se pratique à Berlin, si on compare avec Paris, par exemple. Bonjour Ludovic Subran.
Bonjour.
Chef économiste d'Allianz. Vous avez été surpris, Ludovic, par la réaction de marché d'hier ?
Non, parce que je pense que... Il y a beaucoup de gens qui ont projeté énormément sur ce que les marchés voulaient pas. D'ailleurs, hier, j'ai lu des âneries sur les marchés sont contents que le RN soit arrivé en tête. Enfin, les marchés, ils savent rien du tout. Ils attendent le 8, en fait. Hein. Donc, on va se calmer. En revanche, c'est sûr que cette idée que le cordon sanitaire n'est pas mort et que peut-être qu'on peut éviter une majorité Rassemblement National avec cette incrédulité, discrédit budgétaire, etc. Ça a peut-être rassuré un petit peu, mais je pense que vous l'avez dit, hein, le vrai sujet, c'est après le 8, et c'est ce dilemme du prisonnier, c'est-à-dire quelle patience la BCE, la Commission, les Allemands ont pour la France, qui risque à 99% d'être très peu gouvernable, en fait. Que ce soit un gouvernement technique ou que ce soit, enfin, toute majorité relative rendrait les choses très compliquées. Donc, il faut que tout le monde soit bien patient avec nous et c'est ça que les marchés vont tester. C'est pour ça que ils vont tester la rhétorique anti-européenne, ils vont tester bien sûr la rhétorique budgétaire puisqu'on avait quand même 112 milliards à trouver antebellum. C'est-à-dire que le 8 juin, on avait 112 milliards d'ajustements qui étaient ce qu'on avait promis à Bruxelles dans le pacte de stabilité. Là, maintenant, vous avez vu les programmes. Hein. Moi, j'adore donner ce chiffre. Hein. Le RN, le 14 juin, nous promettait 140 milliards de dépenses. Le 24 juin, 40. Qu'ils ont... Ça n'a ni queue ni tête, en fait.
Vous étiez à 140 milliards.
Ah ben oui, il y avait 50 milliards de nationalisation d'autoroutes.
Ah oui, les autoroutes, les autoroutes.
Enfin, les mecs ont complètement pété un câble. Et donc, ils ne savent pas du tout, en fait.
Mais moi, je crois qu'il y a quand même...
Ici, ils savent un peu, mais vous savez très bien mais il y a des marqueurs pour l'opinion. Quand vous dites aux gens, vous aurez un prix français de l'électricité, ça parle. Les autoroutes, il y a une espèce d'idée nationale et générale qu'on a
spolié le business. Le premier ministre a très bien résumé ça, je crois, lors du premier débat. Dans le programme du RN, par exemple, les 30-60 ans payent pour les moins de 30 ans et les plus de 60 ans. Moi, je ne connais pas une économie qui fonctionne comme ça, je suis désolé. Hein. Et en plus, pareil, dans le programme, on avait regardé un petit peu sur le côté... ils baissent les impôts sur les moins de 30 ans et ils mettent la retraite à 60 ans. Donc, en fait, vous avez 30 ans pour payer... ce qu'il faut comme contribution à la France, c'est quand même le truc qui marche pas. Enfin, je sais pas. Enfin, et autre chose. Hein, moi, je veux bien. Alors, bon, on peut critiquer le programme de gauche. Alors maintenant, la peur des rouges est moins là parce que en fait,
je crois que c'est quand même. Excusez-moi, mais c'est quand même ça qui a provoqué la hausse des marchés hier. On ne sait pas si le Rassemblement National va gouverner ou gouvernera pas. Ça, personne ne peut le dire. Par contre, on sait aujourd'hui que normalement, le programme qui est quand même très difficile pour les marchés du Front Populaire, il sera pas là. Enfin, je veux dire, le Front Populaire aujourd'hui, la gauche extrême du milieu et du centre fait 28% dans le pays. Toute la gauche, toute rassemblée, toute unie derrière un seul programme, un seul chef, etc., fait 28%. Donc je pense que c'est ça qui a rassemblé les marchés, parce que le programme du Front Populaire est un programme d'ultra-gauche qui rajoute des impôts, qui rajoute de la dépense publique sur un pays qui est le numéro 1 de l'OCDE des prélèvements obligatoires et le numéro 1 de l'OCDE de la dépense publique. Donc quand on part de là et qu'on en rajoute encore, on finit dans un système qui est honnêtement, qui est plus tellement capitaliste et qui est au bord d'un autre modèle d'ailleurs qu'on a connu dans le passé, qui sont les modèles soviétiques.
Quand vous dites je n'y crois pas, à quoi?
Parce que c'est pas vrai, en fait.
Pas vrai quoi?
C'est pas vrai que moi je suis investisseur. On a 80 milliards de dettes françaises. Je peux vous dire, on n'a pas bougé les positions sur deux semaines et ça n'avait rien à voir avec le choc fiscal de 100 milliards. C'est juste qu'on a un truc qui est en temps réel. Ça, on a trois semaines, on va savoir ce qui va se passer. En revanche, on sait qu'il y a une rhétorique pro ou anti-européenne. Donc en fait, que les marchés aient sanctionné, si les radicaux des deux côtés arriver. Mais cette histoire de la peur des rouges, c'est un truc très 16e, 8e, 7e arrondissement. C'est-à-dire que c'est 81, les gens qui ont eu peur, et puis le revirement de 83. En vrai, les marchés, ils s'en foutaient de ça. Vraiment. Je pense que c'est pas vrai de croire que les investisseurs de la France avaient peur. Moi, je l'ai dit et je le dis toujours, hein, il y avait une risque de fuite de capitaux majeure si jamais le NFP venait en tête des élections législatives. En revanche, je pense que ce qui est plus grave, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important, le petit répit qu'on voit sur les marchés, il est de très courte durée. Il faut vraiment s'en rendre compte de ça. C'est-à-dire que si le 8, on montre qu'un gouvernement technocratique qui est la meilleure des solutions n'est pas hyper facile pour gérer la France, ça va être des mauvaises nouvelles. Si on a une majorité RN, ou si on a une majorité RN plus LR, ce qui est quand même possible, avec des fondements très anti-européens, je vous assure que la Commission, la BCE, les Allemands ne vont pas nous faire de cadeaux. Et c'est le message de Lindner jeudi dernier à l'IFO, à l'Institut. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de dire, on est patient avec vous tant que vous êtes pro-européen, et que vous n'êtes pas trop dispendieux, et que vous ne foutez pas le bazar dans les trucs sur lesquels on s'est mis d'accord, le vert, les politiques industrielles et tout ça. Si vous sortez de ce truc-là, c'est ce qui s'est passé pour Mélanie, parce qu'on compare toujours à Mélanie, ou c'est ce qui va se passer pour la Belgique. Si vous sortez de cette espèce de pacte de fausse-là, je pense que ça peut être sanctionné. Alors après, en effet, personne n'intéresse que la France aille mal, parce que du coup, l'Italie ira mal, l'Espagne ira mal. Mais il faut quand même comprendre que c'est ça qui se joue. On peut fantasmer sur ce qui s'est passé jusque-là. Je pense que le match n'est pas fini. Moi, c'est
Jérôme,
ça que j'ai envie
votre
de dire.
Lecture par rapport à tout ce qu'on s'est dit là.
Alors moi, je pense que quand même, il y avait... En tout cas, les marchés, je ne sais pas, mais moi, j'ai été assez rassuré de voir le NFP à 28%. Je le dis tout net. Voilà. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en fait, on voit bien qu'ils ne veulent pas du pouvoir. C'est-à-dire que même la stratégie de désistement
LFI,
qu'ils annoncent, LFI, qu'ils annoncent tout de suite, ça les arrange d'être dans l'opposition, parce qu'au fond d'eux-mêmes, je crois qu'il faut leur faire le crédit, qu'ils ne sont pas complètement crétins. Ils savent très bien qu'ils enverraient le pays dans le mur en 6 mois. Donc,
je pense moins. Hein.
Voilà.
Mitterrand, ça a duré 2 ans.
Ça, c'est, on n'est pas dans la même situation que le programme commun des socialistes et des communistes en 80, parce qu'on a depuis un certain nombre de barrières juridiques, constitutionnelles qui se sont mises en place, qui mettent des limites à ce qu'on a
le programme, il est bien pire que 80.
Non, mais il est bien pire. Il est bien pire.
Prélèvement obligatoire.
Mais en 80, Emmanuel
Macron, c'est 4 fois le prélèvement.
Mais depuis
en ISF,
depuis
en tout,
les 60, oui, mais depuis 4 fois, depuis 80 et toutes les décisions de protection qui ont été déclenchées par l'application du programme commun, dont je rappelle qu'il a pris fin en 83, tous les clignotants du changement étant au vert, hein, vous vous souvenez, et ce qui s'est passé après avec les 75% de Hollande, etc. On a quand même, on sait qu'on a un certain nombre de barrières juridiques, de jurisprudence, notamment avec le Conseil constitutionnel, qui se sont mises en place pour empêcher le très grand n'importe quoi, pas le grand n'importe quoi, mais le très grand n'importe quoi. Bon. Donc ça. En tout cas, je ne sais pas si les marchés...
Le viendra du RN aussi.
Non, mais j'ai...
Non, mais parce que maintenant, c'est le...
Bien sûr.
On ne regarde pas dans le rétroviseur. Non, mais là, ils vont regarder devant. Bon, moi, je n'ai pas envie d'avoir un Premier ministre Rassemblement National en France. Parce que je pense qu'ils ne seront pas... ils ne seront pas gouverner ce pays. Je pense qu'il faut juste le dire aux gens. Parce qu'en fait, moi, je veux bien que le NFP, c'était un peu la foire d'empoigne, c'était un peu n'importe quoi. Mais désolé, c'est pas... Quand vous n'avez pas de programme, vous n'avez jamais gouverné, et qu'en plus, vous sortez des âneries constitutionnel en permanence, il faut quand même dire aux Français, il y a quand même un gros risque de mettre ces gens-là au pouvoir. Un risque de nuisance, un risque d'image et un risque quand même de déclassement pour ce pays qui est quand même majeur.
J'adore quand Ludovic m'interrompt pour faire mon pitch à ma place.
Non, mais je préfère, parce qu'on parle beaucoup du NFP, pour le NFP.
Dis-le à ma place. Donc, un truc qui me semble important, c'est que sur ce coup-là, politiquement en tout cas, it's not the economy stupid. Je suis désolé, le tour de prochain, les Français ne voteront pas pour l'économie, je crois pas. Voilà. Donc c'est ça la menace qu'on a. Hein. Bon. Ensuite, ça va se jouer au sérieux budgétaire. C'est-à-dire que ça va jouer à la capacité à faire une loi de finances 2025 et un projet de loi de finances rectificative pour 2024 qui passe les fourches codines de tout ce que nos partenaires et tous les gens qui ont la France, un pouvoir d'influence sur la France et sa politique budgétaire, peuvent faire. Est-ce que ce qui sort des urnes est capable de le faire ou pas? C'est l'unique question qui nous intéresse sur le plan économique.
La réponse est non, dans aucun cas.
Et donc moi, je pense que il y aura de toute façon nécessité d'un relatif sérieux budgétaire. Sinon, ça se passera pas bien.
J'ai toujours eu cette thèse, on en parlait tout à l'heure. J'en dis, pourquoi est-ce qu'il y a eu la dissolution? Moi, je maintiens que je pense qu'une des raisons de la dissolution, c'est l'inévitable rigueur. qu'on va avoir à l'hiver prochain. Tout simplement parce que aujourd'hui, comme notre déficit, 176 milliards d'euros sur les 12 mois courants, ça représente 5 000 euros par foyer français. Je le dis à chaque fois que je viens ici.
Oui,
c'est colossal le déficit de l'État, c'est 5 000 euros. Ça veut dire qu'il y a un 13e mois et un 14e mois de pouvoir d'achat qui est emprunté à nos enfants. Et tout ça parce qu'il est emprunté pas cher, parce que l'Europe, parce que l'euro, parce que les Allemands, parce que la patience, parce que les multiples promesses, etc. Au bout d'un certain temps, on est entouré de pays qui sont des pays à l'équilibre budgétaire, qui veulent, eux, être à l'équilibre budgétaire, pas tous, mais en tout cas un grand pays du Nord. Au bout d'un certain temps, on aura la rigueur.
Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on dit toujours la France est too big to fail, est-ce qu'on peut imaginer que dans une situation délirante, avec un budget délirant, complètement dispendieux, qui objectivement revient à faire un bras d'honneur explicite à nos engagements européens, est-ce qu'on peut imaginer que la BCE refuse de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort?
Moi, j'y crois pas, mais c'est un risque de queue qui peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Bah, le fait qu'on ait une présidente française, par exemple, ça aide pas.
En tout cas,
parce qu'elle sera forcément vue comme l'envoyée de Moscou, quoi. Non, mais ça, il faut vraiment se dire. C'est-à-dire, qui va discipliner la France? Est-ce que c'est les marchés qui disciplinent la France? Est-ce que du coup, on revient vers un canal de moindre, tu vois, dépenses, etc.? Mais à ta question qui est très claire, la patience des partenaires sera certainement moindre avec un gouvernement qui est inique.
Il y a aussi la possibilité.
N'importe quoi au niveau européen.
Il y a aussi la. Oui, Jérôme.
Moi, je veux dire qu'il y a une hypothèse non nulle pour que personne dans notre classe politique aujourd'hui, en tout cas dans les trois blocs qu'on voit, n'ait envie d'assumer cette rigueur qui s'annonce. Voilà.
Bah bien sûr.
Voilà. Et
donc elle viendra de l'extérieur.
Et donc il y aura un événement d'évitement qui d'ailleurs pour moi est, en fait, quand on regarde un peu le jeu politique des désistements, etc., on a l'impression que personne ne veut de la patate chaude là. Personne n'en veut vraiment. En tout cas, et c'est clair que le Nouveau Front Populaire n'en veut pas. En tout cas, la composante LFI du Nouveau Front Populaire n'en veut pas. Au milieu du bloc central, c'est après moi le déluge. Démerdez-vous puisque vous poussez les extrêmes. Et les autres, ils commencent à dire si j'ai pas la majorité absolue, je prendrai pas le gouvernement, etc. Et donc il y a une hypothèse non nulle pour que la période qui s'annonce, ce qui va être très difficile sur le plan budgétaire, où il va vraiment falloir faire des choses, sinon nos partenaires risquent de s'occuper de nous, enfin partenaires et ou tutelle, risquent de s'occuper de nous, il est possible qu'on se retrouve avec personne qui va y endosser cette
responsabilité. Moi, je suis moins cynique, mais je pense que quelqu'un va le faire.
Non, mais parmi les possibilités,
si tu le fais doucement ou si tu le fais abruptement.
Il y a parmi les possibilités, il y a la possibilité finalement d'arriver et puis de renoncer à la baisse de TVA sur l'énergie ou de renoncer à l'abrogation de la réforme des retraites.
Ça, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une des promesses qu'on est sûr de tenir. Que l'électricité va coûter moins cher pour le ménage français dans un an.
Oui.
Et donc on le fait avec une baisse de TVA alors qu'on n'a pas besoin. Ça me semble assez incroyable. Quoi.
Là, il y a les carburants aussi.
Sur les mécanismes de marché, moi je pense que les choses vont être encore plus sournoises que je débranche le prêteur en dernier ressort, parce que ça c'est quand même très violent. Il suffit de quelques phrases du chancelier, de la présidente de la BCE, pour que le spread français explose. Et qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une incapacité d'emprunter. Simplement parce que quand on refinance 3 000 milliards par an, on refinance 300 milliards, pardon, pas, 3 000 milliards en continu, on refinance 300 milliards par an, c'est-à-dire 1 milliard d'euros par jour. Donc de toute façon, on a rendez-vous quasiment chaque semaine avec les marchés. Chaque semaine, on a besoin d'emprunter sur les marchés pour assurer le train de vie de l'État. Donc la réalité, c'est que c'est par les spreads, en fait, qu'à un moment donné, les prêteurs vont manifester leur désamour avec la note de crédit française.
Et moi, c'est une des façons dont j'ai interprété, j'ai toujours du mal à parler de ça devant Ludovic, parce qu'on se dit, oh là là, c'est lui l'économiste et tout. Mais Madame Lagarde, elle nous dit, oh là là, l'inflation, elle se calme pas si vite.
Le match n'est pas gagné, dit-elle à Sintra.
Le match n'est pas gagné, etc. Pour moi, il y a au moins deux composantes essentielles dans cette annonce-là. La première, c'est un truc international, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se permettre de baisser trop vite, parce qu'on a 150 points de base d'écart avec les taux US et qu'il ne faut pas que les capitaux se barrent.
C'est
un point qui est quand même fondamental. Et donc elle ne peut pas aller plus vite que la musique par rapport aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un signal de pression continue sur les mauvais élèves, la France en particulier, en disant en fait je ne vais pas baisser si vite parce qu'il va falloir que tu te prennes ton mur de la dette et que tu t'ajustes. Et donc ça me semble un point important dans sa décision, en tout cas sa forward guidance, si on peut appeler ça comme ça.
Ludovic, comment est-ce que vous traduisez, analysez les propos de Christian Lindner en Allemagne, un risque de tragédie budgétaire à l'issue des législatives en France, et alors le porte-parole du SPD qui parle du RN où il sent une forme de germanophobie. Ambiance quand même.
Alors déjà, il n'a pas dit que ça. Il a aussi dit qu'il a rappelé ce que Jérôme disait, c'est-à-dire il a rappelé l'indépendance de la BCE. Il a dit que ce n'est pas à la Banque centrale de contrer les effets négatifs d'un risque politique en France. Ça, c'était ça le message en vrai. L'inner sort de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Il fait un peu sa drama queen. Enfin, faut pas se cacher. Il essaie d'exister. Il est dans la tradition des ministres des finances allemands. Hein. C'est un Schäuble au petit pied un peu. Ça a été très mal vécu par l'intelligentsia allemande. Genre, il avait pas besoin de dire ça.
D'accord.
Le patronat allemand a trouvé ça génial. Parce que du coup, ils ont dit, ah oui, il faut quelqu'un pour dire les choses et puis pour éviter que la BCE fasse n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas partagé par tout le monde en Allemagne, mais c'est sûr que la question de qui discipline la France si on fait vraiment n'importe quoi se pose.
Et
est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est la BCE? Est-ce que c'est les partenaires? Parce que la Commission a un sujet sur l'engagement autour du pacte de stabilité, je l'ai rappelé, 112 milliards, et puis après, whatever they want to do, hein, puisque, encore une fois, le RN ne sait pas ce qu'il veut faire. La Commission, pour intervenir si jamais les spreads explosaient, puisque, en fait, là, ils ont monté jusqu'à 80 points de base, mais en fait, je pense qu'à 150 points de base, c'est un seuil qui serait très difficile. Ça voudrait aussi dire que les spreads avec l'Italie seraient à 400, les spreads avec l'Espagne à 300, et donc le TPI, hein, ce fameux mécanisme de transition de la politique monétaire, devrait être activé. Et donc, ça poserait des sérieuses questions d'interventionnisme de la BCE, de là où elle ne devrait pas. Et enfin, l'Allemagne, moi, je tiens juste à rappeler, je sais que ça fait un peu vieux con, hein, mais il y a un truc qui s'appelle Target 2, et donc c'est les soldes de compte euro entre les différents pays. Je rappelle qu'on est très déficitaire sur ces soldes-là et que la Bundesbank, par exemple, pourrait rappeler à l'ordre gentiment le fait que bah, si vous êtes un fournisseur français, vous l'êtes payé par des Allemands, on ne vous prête pas de banque à banque. Plus personne n'en parle de Target 2 parce que ce n'est pas très sexy, mais c'est cette histoire de position nette extérieure de la France, qui est d'ailleurs que Éric Zemmour rappelait dans sa campagne en 2022, parce qu'on est aussi hors les clous pour la position externe au sens externe Europe. Interne Europe, on est mal. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder qui va discipliner. Est-ce que c'est les marchés? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est la BCE? Est-ce que c'est l'Allemagne? J'espère que ce sera les marchés.
Et moi, j'adore ce que dit Ludovic, parce qu'il y a un point qui est central dans tout ça, c'est qu'on a quand même une assurance anti-connerie massive, et que l'assurance anti-connerie massive, ça s'appelle l'euro. Je rappelle qu'en 81, quand on a planté le pays, quand l'Europrogramme social-communiste a planté le pays, on a dévalué trois fois.
Trois fois.
C'est ça, hein?
Trois fois.
Bon. Et donc là, on a
jusqu'à
plus
la menace de l'Allemagne de nous exclure.
On n'a plus cette arme-là.
Et après, donc, on a eu Jacques Delors.
Non, mais alors, on a plus cette arme-là de la dévaluation. Non. Et donc, c'est les spreads qui se tendent, ça devient ingouvernable. Il y a tout l'arsenal des gens. Et en fait, il y a une capacité à faire pression sur la connerie des institutions qui sont autour de nous grâce à l'euro.
Ouais, subventionner
qui
la connerie.
Importante.
Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Ça veut dire subventionner la connerie.
Bah, c'est ça le dilemme du prisonnier. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que comme il y a la BCE qui interviendrait en cas de choc, de stress financier énorme, peut-être qu'on a une incitation à faire des bêtises.
Oui, c'est et le too big to fail.
Ouais, c'est la certitude qu'elle sera là et que c'est l'assurance.
Et c'est pour ça que l'INER sort du bois. C'est pour ça que les gens commencent à dire attention.
C'est un peu stressant, objectivement.
Non, mais c'est très stressant parce qu'on va être dans un purgatoire. Enfin, on va être sur une ligne de crête très fine, en fait. Parce que c'est pour ça, hein, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, là. Ce qui se passe le 8 juillet, c'est qu'il y a de grandes chances que le choc d'incertain et d'incertitude de la France ne disparaisse pas incessamment. Et donc, tout va être scruté et les investisseurs en particulier vont se poser la question de est-ce que la France est crédible dans ce qu'elle promet.
C'est pour ça que vu des chefs d'entreprise, le débat politique il est un peu lunaire.
Ah, bien sûr.
Franchement, aujourd'hui, quoi, c'est ce qu'il faut dire. Le débat politique, le niveau du débat politique par rapport à ces enjeux macroéconomiques dont on parle.
Cette semaine, c'est des jeux de circonscription. Mais même,
c'est de la démagogie pure.
Énormément de démagogie. On dit pas la vérité aux Français sur notre situation financière. On dit pas la vérité aux Français sur ce qui peut nous arriver, sur les risques qui nous menacent et qui sont très supérieurs à tout ce qui est inscrit dans les programmes. Donc c'est franchement, moi je n'ai jamais fait de politique de ma vie, j'en ferai jamais, mais je me permets quand même un petit jugement à l'attention de mes camarades politiques. Je trouve que le spectacle est vraiment déplorable.
Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que le meilleur scénario, c'est une assemblée ingouvernable et un gouvernement technique, comme les Italiens ont su le faire à plusieurs reprises?
Moi, je suis partagé sur ce sujet. Ouais. D'un certain côté, oui. Pourquoi? Parce que quand c'est un gouvernement technique et qui finalement il fait pas grand chose. On a une certaine stabilité. Et que dans la stabilité, on peut faire des projets de long terme.
Généralement, tu prends ton budget de l'année en cours et tu le reproduis mécaniquement.
Hein. Nous, entrepreneurs et investisseurs, ce que nous détestons, c'est l'incertitude. L'incertitude bloque nos décisions d'investissement, bloque notre énergie. l'énergie, met le pays à l'arrêt sur un certain nombre de choses, etc. Donc ça, c'est finalement un gouvernement technique. Ça, on a vu ça un peu en Belgique, on a vu ça quand Cameron en Angleterre avait dit « je ne toucherai à rien, elle est merdique, mais je ne toucherai à rien à la réglementation des PME » et à ce moment-là, l'investissement des PME est reparti, c'est quand même intéressant. Il avait pris un engagement de toucher à rien pour que l'environnement soit stable, même s'il n'était pas parfait. Bon. Donc ça, nous, on aime bien la stabilité. Néanmoins, dans la situation, et c'est pour ça que je suis partagé, dans la situation dans laquelle on est, comme le risque budgétaire, le risque financier qui pèse sur le pays existe avant même les conneries potentielles des programmes des blocs extrêmes. Il va quand même falloir le traiter, et si le fait qu'on ait un gouvernement technique nous emmène vers une fin de quinquennat où il y a toujours un risque extrémiste en sortie, parce qu'on n'aura pas traité le problème au fond, cautérisé la plaie, percé le sac de pur, enfin appelez ça comme vous voulez, on a un risque d'instabilité où les gens regardent la France avec un œil plutôt défavorable dans les années qui viennent.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.